Comment aller plus vite sur un trail court? Quelle stratégie? Quel entraînement? Ce sont les questions qui m'ont été posées cette semaine. Et je vais y répondre avec mon expérience du week-end dernier. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans l'Homestars Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai une question de Marc qui me dit qu'en fait, il prépare un trail qui sera dans son village. Il a pris la distance courte, 15 km, 900 D+, qu'il avait couru l'an dernier. En gros, il veut progresser, il veut gagner 15 minutes, voilà. Il s'est entraîné, il a progressé dans l'entraînement. Par contre, c'est difficile pour lui de savoir quelle allure adopter. Il dit, bien sûr, il y a la montre pour voir le cardio, si on pousse trop, mais pas facile de savoir quand accélérer ou marcher, comment faire pour gagner du temps sur un trail le jour de la compète. La première montée est à 30 minutes à peu près, peut se faire en courant, ensuite grosse descente, puis montée longue, et dure avec pas mal de petites parties obligées de marcher, et des parties roulantes, de la vitesse, de la redescente dans le village. Et puis, j'ai une question de Maria-Laura, qui a aussi été rajoutée cette semaine, qui me demande, elle, après son trail le week-end dernier, quel entraînement elle préconise pour mettre du rythme dans un trail, avoir de la relance en haut des côtes. Est-ce juste à force de s'entraîner sur des côtes et des descentes? Est-ce qu'il faut faire de la pliométrie? Alors, je vous ai fait un mix, en fait, des deux questions, parce que c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Les trails courts, moi, j'adore ça. Le week-end dernier, j'ai fait un trail de 12 kilomètres qui était en fait mon trail 6 ans après mon premier trail. Voilà. Donc, et le constat, c'est qu'il y a 12 kilomètres et 279 mètres de D+. Je l'ai bouclé en 1h05, soit une moyenne de 11 km/h. Et c'est largement mieux que ce que j'avais fait il y a 6 ans. Et je vais vous dire comment et quelles leçons j'en tire vraiment. Mais avant de partager avec vous ce constat, je fais une petite pause publicitaire. Car oui, en plus des coachings et des programmes en ligne, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors pour répondre à ces deux questions, il y a une grande règle générale que je rappelle toujours. On ne gagne jamais beaucoup de temps dans les montées. Jamais on ne gagne de temps beaucoup dans les montées. Il faut dire que les montées gagnent toujours. Et en fait, elles nous conduisent à l'épuisement si on essaye de les faire trop vite et si on essaye de les faire en courant. Le temps se gagne sur le plat, dans les relances et en descente. Et le temps se perd aussi sur le plat, dans les relances et en descente. Voilà, c'est le principe comme ça. On va dire que tout le monde finit par monter à peu près à la même allure. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a les champions, il y a nous, etc. Mais en fait, plus la montée est raide et plus tout le monde finit par monter grosso modo à peu près à la même vitesse. Et le souci, vraiment, c'est que on veut souvent courir le maximum possible. Et c'est vrai que ces trails courts, c'est super intéressant parce que surtout, ça change un peu de la route. On peut commencer à découvrir un petit peu le trail, les chemins et tout. Moi, je trouve que c'est un format qui est génial. J'en ai fait plusieurs là-dedans et encore le week-end dernier, j'avais fait 12, 24. Voilà, c'est des formats où finalement on prend pas longtemps, ça se prépare assez facilement, ça se prépare un peu comme des 10 avec quelques caractéristiques sur lesquelles on peut travailler et je vais en parler. Mais c'est vraiment un format qui est super accessible, qui permet de découvrir des chouettes paysages. Et en général, c'est toujours pareil. Hein. Il y a toujours un bout de plat, il y a toujours des montées, des descentes, et puis du plat à la fin. Ça ressemble toujours un petit peu pareil. Hein. Alors des fois, les montées sont placées un petit peu différemment. Mais dans tous les cas, c'est toujours un petit peu ces petites variations comme ça. En fait, j'ai envie de dire, ça ressemble un peu à des toboggans. Et c'est justement pour ça que moi, j'ai un entraînement que j'appelle l'entraînement toboggan. Le souci, c'est que quand on arrive, notamment quand on découvre qu'on arrive de la route, on a envie de courir le maximum de temps, le maximum possible. Et en montée, le cardio s'affole très vite et la vitesse est impossible à tenir sans que le cardio s'affole et sans s'épuiser. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de cas où j'ai vu des gens qui monter en courant et moi je montais à côté d'eux en marchant sur un des trails que j'avais fait il y a quelques années, j'ai souvent raconté, j'ai même discuté avec un gars et en fait il avait au moins, dans mes souvenirs, au moins 20 points de pulsation de minutes de plus que moi, il était rouge comme une tomate et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé en haut de la côte? Et ben moi je suis reparti en courant et lui en fait il avait les mains sur les genoux et en fait il soufflait alors que pourtant il avait dépensé beaucoup d'énergie pour monter. Donc, il faut gérer les montées pour contenir le cardio, se ravitailler aussi, boire, manger un petit peu si on en a besoin, se préparer en fait à avoir de l'énergie pour relancer, pour aller vite sur le plat, des forces pour descendre, avoir la lucidité aussi d'esprit, parce que le problème, c'est que c'est pas juste une question de cardio finalement qui monte haut, c'est que quand le cardio monte haut, bah forcément le corps il travaille différemment et peut-être ensuite on perd un peu, il y a de la fatigue nerveuse, fatigue centrale, on se fatigue plus vite, on perd un peu ses idées, sa lucidité, et en fait on a besoin de la lucidité pour descendre et descendre vite, on a besoin de l'énergie musculaire pour relancer, on a besoin de l'énergie musculaire pour descendre bien, et donc en fait c'est pas la peine de la dépenser dans un endroit où c'est pas rentable. En fait, c'est une question de rentabilité, j'ai envie de dire. La rentabilité sera beaucoup plus importante en allant vite sur les parties plates et en allant vite dans les descentes, en tout cas le plus vite possible, alors que d'essayer d'aller vite dans les montées. Et ça, on en avait parlé, mais même avec Jon Stuck, on en avait parlé il y a, je crois que c'était il y a 2 ans, on avait enregistré l'épisode, où il disait par exemple que dans les descentes, il se faisait griller par des gens qui descendaient plus vite que lui, qu'il fallait qu'il travaille ça, hein, vraiment travaille ça. Il y a des descendeurs, il y a des gens qui descendent vraiment très vite, hein, il y a des spécialistes de la descente, et il y a des gens aussi qui sont capables de relancer fortement sur les zones de plat, et ça, ça se travaille. Alors oui, comment ça se travaille? Bon, bah, il faut le dire, hein, finalement, c'est que si on veut aller vite sur le plat, c'est la vitesse pure. C'est l'exercice de vitesse pure, un peu comme sur de la route, etc. On va dire, je vais me fixer une allure, comment, à quelle vitesse je peux partir. C'est de la vitesse pure, donc de la VMA, développement de la VMA, du seuil, tout ce qu'on veut. C'est du très classique. La descente, bah, il faut s'entraîner à descendre vite. Et là, il y a du renforcement musculaire. Il y a du pilotage aussi. Hein, aller courir avec des gens qui descendent un peu, ça peut être intéressant. Quand j'ai pilotage, en fait, moi, je me suis rendu compte sur une reconnaissance que j'ai fait avec, notamment, bah, c'était le team de Patrick Bringer. Alors, Patrick Bringer était champion du monde par équipe de trail. Et en fait, il y a les coureurs qui étaient avec lui, qui le suivaient. J'ai vu qu'ils descendaient pas comme moi. En fait, les foulées étaient pas pareilles. La position des bras était pas pareille. J'ai beaucoup appris comme ça en les observant. Et ça, c'est vraiment un point intéressant. Si vous faites des trails comme ça, vous regardez les autres personnes qui descendent bien, regardez un petit peu comment ils font. Essayez des fois aussi de vous mettre un peu dans la foulée de certains qui descendent bien. Et vous allez découvrir, en fait, que, bah, ils descendent, vraiment avec des techniques particulières. Alors après, bien sûr, il y a des choses qui vont jouer aussi, comme les chaussures qu'on utilise, comme sa foulée, comme sa musculation, mais aussi, en fait, son équilibre. Et là, c'est important, on va faire entrer en jeu la pliométrie, pour répondre à la question de Maria-Laura. Oui, par exemple, la pliométrie, c'est vraiment important pour l'équilibre, parce que finalement, c'est quoi? C'est être capable de récupérer son équilibre, surtout dans des situations qui sont instables, et surtout qu'avec l'âge, par exemple, on peut avoir la vue qui baisse, ou alors on porte déjà des lunettes toute sa vie, mais on peut aussi avoir la vue qui baisse, on peut avoir l'oreille interne qui a un petit peu moins d'équilibre, on peut avoir moins de sensations au niveau aussi, certains bruits, etc. Donc globalement, on va dire qu'en vieillissant, on a moins d'équilibre. Bientôt, on en parlera dans un épisode sur l'entraînement master, sur les athlètes master. C'est vraiment très intéressant. Et donc, la pliométrie, ça va faire quoi? Ça va rattraper, en fait. Ça va nous permettre de rattraper plus facilement ces petits déséquilibres, ces petits moments où on est moins à l'aise sur ses pieds, etc. Ça va se rattraper par la pliométrie. Donc oui, les exercices de pliométrie sont toujours intéressants. Et dedans, par exemple, il y a de l'équilibre sur un pied, il y a des balles instables, il y a tout un tas d'exercices comme ça. Mais j'ai envie de dire déjà, même de marcher sur, vous savez, les rebords des trottoirs, de marcher en équilibre un pied devant l'autre, déjà on sent qu'on n'est pas tant équilibré que ça, ou sur une mini poutre, vous savez, qui sera au sol, etc. Vous n'avez pas besoin de monter sur une poutre à 1 mètre de haut, hein. Mais déjà rien que ça, vous savez, sur les petites poutres qui sont par terre, des choses comme ça. Vous allez voir que déjà, ça va travailler. Moi, il y a ce que j'appelle la technique du héron, c'est-à-dire qu'en me lavant les dents, je me mets sur une jambe, 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre, 30 secondes sur l'autre, avec une brosse électrique, par exemple. J'ai fait une vidéo sur Instagram, il y a plusieurs années de ça, mais où je montrais cette technique-là, qui était vraiment très efficace. Ensuite, maintenant, il y a le cas des relances. Comment on fait pour les relances? Eh ben, c'est faire des séances de côte, oui, pour monter. Et c'est vrai qu'on fait souvent des séances de côte en disant, je vais essayer de monter le plus vite possible. Mais en fait, moi, ce que je trouve le plus efficace, c'est de faire une séance de côte où on n'essaie pas de monter le plus vite possible, parce que je le redis, on va s'épuiser. Mais c'est surtout de faire une séance de côte, et quand on arrive en haut de la côte, c'est de mettre une relance directe. C'est-à-dire de trouver une côte sur laquelle il y a un bout de plat, ou alors il y a carrément une descente. C'est-à-dire qu'au lieu de monter le plus vite possible, et une fois qu'on arrive en haut, on met les mains sur les genoux, on souffle comme pas possible, c'est plutôt de gérer la montée un peu comme on va la gérer pendant une course. Et puis, dès qu'on arrive en haut, soit il y a du plat et on relance, soit on redescend tout de suite. Et dans ce cas-là, dans la redescente, qu'est-ce qu'on fait? On met du rythme, on descend pas plan-plan. Tac, 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 on descend le plus vite possible en travaillant justement ses appuis, en travaillant son équilibre, en travaillant sa technique. Et là, vraiment, c'est beaucoup plus efficace. Moi, j'appelle ça mes séances toboggan. J'ai même trouvé un petit endroit où en fait, il y a une montée, un plat et une descente. Donc, je monte, je relance sur le plat, je descends à fond. Alors quand j'arrive de l'autre côté, je peux pas faire le tour, revenir faire une boucle. Donc ce que je fais en fait, c'est qu'il y a un bout de plat à nouveau. Donc je pars sur le plat, puis je peux revenir, je peux refaire la montée. Elle est plus raide dans un sens que dans l'autre d'ailleurs. Refaire le plat en réaccélérant auto et puis en redescendant un petit peu de l'autre côté. Et puis je fais comme ça un passage et qui peut être de faire 5 passages, 10 passages. Ça dépend un petit peu de mon état de forme. J'aime bien par exemple, je faisais souvent à une époque, je faisais 2 fois 5 passages par exemple. Parce que la montée elle va faire 50 mètres, la relance va faire 150 mètres. Là, j'essaye de mettre le plus de relance possible, le plus d'accélération vraiment pour la travailler. Un peu sur le principe, un peu comme si je travaillais de la VMA derrière en fait. Et vraiment, ça booste un petit peu les choses. Et puis derrière, dans la descente, continue à relancer et ne pas dire bah, maintenant je suis en descente, je me laisse aller plan-plan, etc. Non, vraiment mettre du rythme dans la descente. Ça, c'est vraiment pour moi les séances qui sont le plus efficaces pour ce genre de choses. Ensuite, il y a le mental, se préparer à marcher, l'intégrer comme une stratégie de performance. Oui, vraiment une stratégie de performance. On est plus performant en marchant et on est plus performant en fait en se disant « je suis plus performant en marchant dans les côtes, je l'accepte, je sais que je vais marcher dans les côtes, je sais que je vais être plus performant, je sais pourquoi je le fais et pourquoi je le fais, parce que ça me permet, un, d'économiser de l'énergie, ça me permet de calmer le cœur aussi, donc d'avoir un cardio plus bas quand je vais pouvoir relancer derrière. Ça, c'est vraiment un point important. Plutôt qu'il s'enflamme, eh ben, c'est plus facile. J'ai moins chaud, je transpire moins, je suis moins haletant, etc. Et puis, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je profite de ces temps pour boire un petit peu, manger un petit peu, croquer, par exemple, dans une barre quand il y a besoin. Boire ma boisson d'effort sur un 12 km. En général, hein, j'ai pas de barre ou quoi que ce soit. L'autre jour, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du miel à pyrone dedans et j'ai mis un petit peu de bicarbonate. Donc, une petite boisson d'effort comme ça pour les 12 km. Ça allait vraiment, vraiment très bien. Ça a été super bien. Justement, je viens à mon expérience du week-end dernier. C'est ce qui s'est passé sur mon trail, dont je rappelle 12 km. Presque 300 mètres de dénivelé. Il y a 6 ans, c'était mon premier trail. Le premier trail de ma vie, premier dossard comme ça et tout. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais fait avec une ancienne collègue de travail, on avait dit on va partir autour de 9 km/h. Donc j'irais en fait une allure qui était plutôt constante. Vraiment une allure qui était constante, même si sur le plat on allait un peu plus vite. Sur la descente, on montait finalement en marchant. Mais vraiment, dans cette optique-là, on l'avait fait. Là, j'ai fait dans une optique en me disant, bah tiens, je vais prouver, en fait, en tout cas me prouver que ce que j'ai appris pendant ces 6 ans, ça fonctionne bien. Et puis, je vais vous en faire un retour. Alors, comment j'ai fait? Eh ben, quand c'est parti au départ, je suis parti, c'est plat. Donc, les premiers kilomètres en 4,23, 4,24, vous voyez, donc une bonne allure hein, qui est supérieure à 12 km/h. Au moment, on est plutôt à 12,5 ou peut-être un peu plus. Et puis ensuite, il y a eu un premier faux plat. Et le premier faux plat, en fait, j'ai pu le faire en courant. Donc là, ça m'a un petit peu ralenti, mais en fait, j'étais encore au-dessus de 5,0, donc encore au-dessus de 12 km/h, donc là-dessus, pas de souci. Première montée, je marche, et je constate que je double ceux qui courent. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, parce que j'avais quelqu'un de mon ancien club, et on avait le 12 et le 24 qui partent en même temps, on avait le même parcours au début, et lui qui a une vitesse toujours assez tracteur, assez régulière, etc. Et lui, il a fait la montée en courant, et moi, j'ai fait la montée en marchant. Et il y a un moment donné, en fait, je regardais, et ben sur la partie faux plat où il courait un petit peu toujours à la même allure, ben finalement il avait pris un tout petit peu d'avance, mais sur la partie montée quand c'est devenu beaucoup plus raide, et ben j'étais devant lui, je suis repassé devant lui et en fait j'ai pas été vraiment doublé dans les montées par peut-être une ou deux personnes qui galopaient vraiment et que j'ai pas revu du tout, mais globalement en fait j'ai plutôt doublé des gens en montée. Là, on est arrivé au kilomètre 6 et j'ai relancé. Alors, j'ai pas relancé à 4,20, etc. J'ai relancé à 4,50 du kilomètre. Hein. Donc, vraiment encore, je suis à supérieur à 12 km/h. Donc, ce qui est vraiment pas mal parce que moi, j'ai pas fait de VMA depuis longtemps. L'an dernier, j'ai fait plutôt des défis ultra. En ce moment, je me concentre aussi beaucoup sur le vélo. Mais surtout, c'est que cette partie de relance m'a permis en fait de me présenter avec un peu de vitesse, etc., d'être content, d'avoir dit tiens, les jambes et tout, ça va bien. Donc de me rassurer aussi sur mes compétences, de mes capacités du moment. Et puis derrière, il y avait des montées raides. Et là, les montées raides, ça m'a stoppé net, mais vraiment net. Le premier kilomètre en montée, 8,17 pour faire un kilomètre, 8 minutes 17 pour faire un kilomètre. Donc c'est-à-dire que grosso modo, j'allais pratiquement deux fois moins vite, un peu moins de deux fois moins vite que sur les parties plates. C'est là où les moyennes, en fait, elles sont en train de chuter. Et après, la deuxième montée, j'étais pratiquement à 7 minutes du kilomètre. Donc là aussi, ça a bien stoppé, la montée dans la forêt. Alors même s'il y a des petits moments, il y avait un tout petit plat, hop, je relançais un petit peu, mais ça montait bien, petit plat, je remontais. Pas si facile que ça. Donc là, vraiment, ça m'a stoppé. Mais l'avantage, c'est que quand je suis arrivé au sommet, ensuite, il y avait la descente et des faux plats. Et là, j'ai pu remettre en fait de l'allure. Et là, j'étais à nouveau à 12 km/h, enfin 4,59, 5 pendant 2 km. à peu près, avec les descentes, les faux plats, un petit peu de faux plats montants, un petit peu de plats, un peu de descentes, des choses comme ça. C'était un petit peu le mix. J'ai été doublé quand même par des coureurs lourds et en maximaliste, parce que moi, j'étais parti en minimaliste. J'ai pris mes ultra de cross, mes vaniches, mais pas les vaniches de maintenant, les vaniches de, d'il y a 2-3 ans, qui sont très fines, qui ont une semelle qui est très très fine et tout, où là, franchement, ça tape, on peut pas taper sur les talons, on n'a pas de protection, etc. Et sur une montée, je me suis rendu compte, il y a un coureur, notamment, qui avait un gabarit un peu rugbyman, qui est descendu, mais vraiment très vite, avec beaucoup de vitesse. Alors, il faisait beaucoup de bruit avec il tapait très fort avec les talons, etc. Ça a été très efficace. C'est aussi quand je cours en Five Fingers, je me suis rendu compte de ça assez régulièrement. Je l'ai pas revu, hein, parce que dans la descente, en fait, il a profité. Puis, probablement ensuite, sur la partie plate, il avait relancé. Ça faisait partie des coureurs que j'avais doublé sur la partie plate de début, en fait, hein, et dont la stratégie, en fait, bah, la montée, il a dû la gérer à peu près comme moi. Et par contre, sur la descente, bah, il avait beaucoup, beaucoup plus de vitesse que moi. Est-ce que si j'avais été en chaussures plus épaisses, maximalistes, etc., je pouvais le suivre? Ça, j'en sais rien. Peut-être j'avais pas d'entraînement. Il avait des plus grosses cuisses que moi, je pense. Et pourtant, je pense pas être dépourvu de cuisses et de mollets, hein, voilà, sincèrement. Mais bon, bref. En tout cas, lui, je l'ai pas revu. Il y en a un autre qui m'a doublé, mais lui, je l'ai rattrapé sur la partie plate. Derrière, j'étais assez content. Ensuite, il y avait une bonne bosse, un peu courte, mais un vrai mur, très raide. Et là, en fait, j'avais accéléré juste avant parce que j'avais l'énergie, en fait. Il me restait l'énergie que j'avais accumulée, enfin, évité plutôt de dépenser pendant le reste de la course. Il restait grosso modo 2 km à ce moment-là. Donc, elle, impossible de la monter en courant, je la monte en marchant. En haut, je fais même un petit selfie. Je regarde sur ce kilomètre-là, finalement, je suis à 5,35 du kilomètre. Donc, c'est pas si lent que ça, malgré cette montée bien raide. Ce qui veut dire que sur la partie plate qu'il y avait juste avant, eh ben, j'avais quand même pas mal de vitesse. Je peux pas dire exactement, j'ai pas regardé en détail à 500 mètres près, 200 mètres, etc. Mais j'avais pas mal de vitesse et j'ai un très bon souvenir de cet endroit-là. C'est-à-dire une descente qui s'est passée très, très bien. Et puis, la partie plate où j'ai vraiment relancé, j'avais fait vraiment exprès de relancer en me disant là je sais que ça va monter raide et donc ça va me stopper, donc j'ai pris le temps même de faire mon selfie en haut. La descente était un peu raide, c'est là où j'étais le plus gêné par les minimalistes, et puis derrière ça descend, et puis ensuite un dernier kilomètre sur plat où là je fais en 4,38, et 4,38 en fait, eh ben, c'est mon troisième kilomètre le plus rapide alors que c'est le 12e kilomètre de la course. C'est à dire qu'en fait à la fin de la course finalement, ben, j'avais encore l'énergie pour avancer. J'avais d'ailleurs moi la troisième féminine qui je me suis dit, bah tiens, je vais servir un peu le lièvre, et puis à la fin elle va me doubler parce que je la connaissais, on a couru en club ensemble, et ben même pas, comme quoi j'ai réussi finalement à rester devant elle, hein, elle m'a même pas rattrapé. J'étais assez content de mon coup finalement dans cette histoire là c'est aussi pour moi en fait le constat quelque chose, parce que j'avais fait un trail qui faisait à peu près la même distance, un urban trail de 13 km qui était au mois d'octobre, 15 jours, 3 semaines après mon 24 heures, où j'avais beaucoup souffert sur la fin. J'ai vraiment beaucoup souffert. Donc là, je suis très content parce que j'ai beaucoup moins souffert sur la fin, sur le dernier kilomètre. Sur le dernier kilomètre de l'Urban Trail, franchement, je m'étais fait doubler par 3, 4, 5, 6 personnes, je crois, dans la dernière ligne droite qui était plate. Là, c'est la même configuration, c'était le même endroit, c'était pas tout à fait la même arrivée, mais c'était à peu près la même configuration plate. Et là, par contre, j'avais beaucoup de vitesse et j'ai pu vraiment rester dans les bonnes allures. Cette stratégie, donc, elle s'est avérée vraiment très efficace. J'avais fait mon premier trail, je le dis, à 9 km/h. Celui-ci, je le cours à 11 km/h, ce qui fait effectivement gagner un bon quart d'heure à la fin, mais aussi des places, et pour peu. Je montais sur le podium de ma catégorie. Bon, il n'y a pas de podium de ma catégorie, en fait. Il aurait fallu que ce soit la catégorie master au global. Moi, je suis en master 2. Il y avait, je crois que le premier de ma catégorie, d'ailleurs, c'est un master 2. Après, il y a eu un master 1 qui s'est glissé. Donc, même en catégorie master, je ne serais pas monté sur le podium. Master global, je devais être 4e ou 5e master. Dans ma catégorie master à moi, j'étais 4e. Comme quoi, ça joue pas grand-chose. Il suffirait qu'il y ait un podium dans la catégorie master pour que je sois capable de monter dessus. En tout cas, avec ce genre de stratégie, pourquoi pas? Allez savoir, pourquoi pas? Ça pourra arriver. Et surtout, le ressenti global, c'est que j'ai vraiment eu du plaisir à faire cette course parce que sur la partie plate, j'ai pu accélérer. Donc vraiment, c'était plaisant d'avoir un peu de vitesse. Sur les parties qui montaient, bah, j'ai géré mon énergie. Sur les parties qui descendaient, j'ai vraiment pris du plaisir sur la descente, vraiment en pouvant descendre, etc. Relancer, finir bien, vraiment finir bien. Et ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment plaisant. Donc, je rappelle, pour synthétiser mes conseils, en fait, bah, déjà, c'est une question de mental. Se dire que oui, je suis plus performant en marchant dans les côtes. que de toute façon, c'est pas dans les côtes, c'est pas dans les montées que je vais gagner du temps, c'est pas dans les montées qu'on va gagner le plus de place. Par contre, c'est sur le plat, sur les relances, sur les descentes, que l'on gagne des places ou que l'on perd des places, que l'on gagne du temps ou que l'on perd du temps. Et donc, on va s'entraîner spécifiquement, en fait, pour travailler cet enchaînement-là. Oui, s'entraîner pour monter en côte, c'est intéressant pour développer la musculation, pour développer le cardio, pour développer beaucoup de choses. Mais je trouve que dans l'optique de préparation d'un trail court comme celui-ci, ce qui est très intéressant, en fait, c'est de s'entraîner à monter à une vitesse qui est même en marchant, mais par contre, de s'entraîner à relancer derrière, relancer sur le plat, relancer dans la descente, être capable de descendre vite, parce que c'est vraiment là qu'on va aller grappiller, en fait, des minutes, vraiment, et puis peut-être, pourquoi pas, des places. Voilà. Si vous aussi, vous avez besoin de conseils et de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Hamsters Running Club. Je réponds tous les vendredis à toutes les questions qui sont posées dans la semaine. Et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure. On prend le temps de discuter de vos difficultés, des questions, du plan, quel plan on peut mettre, qui n'est pas qu'un plan sportif, hein, qui est un plan global de vie, hein, avec la logique de Sam, avec l'alimentation, la préparation mentale. On termine tout ça avec un plan précis pour avancer. Je vous apporte mon soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un très bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.